8h35 minutes, le Sieur de Terrien qui s'installe pour une chronique qui est vraiment en lien avec ce qui s'est passé cette semaine. On a appris la programmation d'un festival d'été un peu weird, adapté. Je dis un peu weird, c'est pas péjoratif, mais adapté à la pandémie puis au contexte actuel. Mais donc, ça en est passé les affaires dans les 50 quelques années du festival d'été. On se replonge dans cette fascinante histoire dans quelques minutes. Mais bien sûr, avant, laissez-moi d'abord vous saluer si vous venez de vous joindre à nous à 8h35 minutes en ce dimanche 6 juin et de vous dire que, ben, quelques nouvelles peut-être, Alexis?
Ben oui, dans l'actualité, demain sera un grand jour. D'abord, il n'y aura plus de zone rouge au Québec parce que les MRC de Beauce, Sartigan, Robert-Cliche, Montmagny et Lillet est encore en zone rouge.
Ce sera un grand jour aussi parce qu'enfin, Alexis Sanson aura sacré son camp de l'émission.
Exactement, ce sera un lendemain de ma dernière présence. Mais surtout, il y aura du vert qui va partir et apparaître sur la carte du Québec demain. Nord du Québec, Côte-Nord, Abitibi-Témiscamingue et également Île-de-la-Madeleine qui vont s'ajouter aux zones vertes pour nos amis de la Mauricie, centre du Québec. Eux passent en zone jaune de ce côté-là. Puis on commence à devancer les deuxièmes doses également demain. Le Walmart de Le Bourgneuf a dû être évacué puis fermé pour le reste de la journée hier en raison d'émanations de fumée. Celle-ci provenait du McDonald's à l'intérieur du magasin. C'est un problème de ventilation au niveau du toit qui serait en cause. Il n'y a eu aucun blessé, sauf une personne qui était incommodée par la fumée. Et Donald Trump a prononcé hier son premier discours télévisé depuis des mois en avertissant que la survie de l'Amérique dépendait d'une victoire républicaine lors des élections de mi-mandat l'an prochain. Donald Trump a de nouveau effleuré l'idée d'une nouvelle candidature présidentielle en 2024 et, sans surprise, il a répété les allégations pas très fondées de fraude électorale massive lors de la présidentielle de novembre 2020. Ça n'a pas changé ben, en fait, depuis la dernière fois, là.
Non, c'est juste qu'on le voit moins parce qu'il n'est plus sur Twitter. Fait que...
Il a plus son blog, ça a l'air que ça ne marchait pas. Il était déçu de voir que ça ne marchait pas ben, son blog.
Son blog.
Il y avait un blog. Donald Trump.
Okay. Alors, il avait pas le choix. Il était nulle part ailleurs.
Ben oui,
il a essayé de se faire de quoi. Le monde n'a pas suivi.
Ah, puisque là, il est suspendu 2 ans là, par Facebook.
Oui, j'ai vu ça. Pour une raison que je m'explique mal, le ciel s'est dégagé. Il fait un superbe soleil à Québec. On a perdu 1 degré dans la dernière demi-heure. Je sais pas où il est allé. Je sais pas ce qu'on avait pu perdre ça. Mais donc, pour cet après-midi, ce sera un ciel variable. Mais c'est vraiment une belle journée, sincèrement. Là. Il va faire un peu chaud, évidemment, si les piscines sont prêtes. Ça va être un must pour les 3 prochains jours. Là, puis l'air climatisé va fonctionner si vous l'avez. Mais laissez-moi vous dire que donc ce sont vraiment 3 belles journées qui nous attendent. D'abord aujourd'hui, max de 27, humidex 32. J'ai dit quoi tantôt? 6 juin. Première canicule. Ben là, je pense pas qu'officiellement ça
Quelle
compte
année?
Comme une canicule 2021.
Ah, okay.
Je suis pas sûr que ça compte comme une canicule parce qu'il faut que ce soit 3 jours au-dessus de 30 degrés. Là, on a rien que 2. Mais aujourd'hui, c'est 27, c'est la journée la plus chaude des trois. Parce que demain, 32 et mardi, 32, avec à l'humidex respectivement 39 et 37. Fait qu'il va faire chaud pour le vrai. Présentement, il fait 16 à Québec.
Dans le monde du sport, Max Verstappen est en tête du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Tout à l'heure, Sébastien Vettel a été éphémèrement en première place, mais il est retombé actuellement là, 7e. Max Verstappen est premier, Sergio Perez est 2e, Lewis Hamilton est 3e. Actuellement, on a fait 20 tours sur 51. Au hockey, le Canadien de Montréal pourrait prendre les devants 3-0 dans la série face aux Jets de Winnipeg avec une victoire ce soir. 18h le match au Centre Bell, 17h30 l'avant-match sur nos ondes. Ailleurs, dans la Ligue nationale de hockey, Tampa Bay a pris une avance de 3-1 dans la série face aux Hurricanes de la Caroline grâce à une victoire de 6-4 hier et les Islanders ont égalé la série 2-2 face aux Bruins de Boston avec une victoire de 4-1. Colorado et Vegas, ça se passe ce soir 20h pour le 4e match de cette série-là. Au hockey junior, les Tiques de Victoriaville ont causé la surprise et ont remporté la Coupe du Président 3-2 en deuxième prolongation hier au Centre Vidéotron. C'est un but d'Alex Bocage, déception pour les Foreurs de Val-d'Or qui avaient toute une équipe pour essayer de se rendre jusqu'au bout. Et on a marqué l'histoire hier dans la Ligue de l'Ontario. Taya Curry est devenue la première femme repêchée dans la OHL. C'est une gardienne de but qui a été repêchée au 14e tour, 267e rang. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Manon Réaume et Charline Labonté ont déjà gardé les buts, mais n'ont jamais été repêchées, de ce que je comprends.
François Terrien dit, le Sieur de Terrien s'installe. Ah, il n'y a pas un petit jingle qui va avec ça.
Que Québec se lève.
La chronique historique de François Terrien. Voici le studieux Sieur de Terrien.
Oh! Oh que oui! Il me semblait qu'il y a quelque chose qui manquait.
Il manquait quelque chose.
Ouais, c'est ça. J'étais comme en train de faire du bruit avec ma bouche, mais mon cerveau me disait, mais ça semble que c'est pas ça d'habitude. Alors, François Therrien, dit le sieur de Therrien, s'installe, comment ça va?
Ça va super bien, vous autres?
Oui, ça va très, très bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de ton sujet, parce que comme je l'ai dit tantôt, ben, ça a rapport au bout avec ce qui s'est passé cette semaine, dévoilement de la programmation du Festival d'été de Québec. Mais moi, c'est un événement que j'adore, auquel je vais à chaque année, ou presque, que je chéris, et qui est très important pour la ville de Québec. Et c'est un événement qui a quand même 54 ans, 53 ans.
En fait, en principe, ce serait la 54e édition. Mais comme il n'y en a pas eu, c'est la 53e, mais c'est à 54 ans, ce festival d'été.
Et donc, ça veut dire que ça a dû changer pas mal à travers le temps. Et puis, ça en est passé des affaires. Moi, je me souviens d'un laissé-passer du festival d'été qui était... 20$, je pense.
On va reparler de ça. Ouais. C'est l'inflation du... comment on pourrait dire? Ben, laissez-passer macaron, parce qu'à l'époque, c'était un macaron.
C'est le macaron.
Alors, on va reparler de ça. Les débuts du festival d'été. Alors, la première édition, c'était en 1968. Dans les années 60, le Québec est en pleine révolution tranquille. Et parmi les grands événements qui se tiennent pendant cette période, ben, il y a l'Expo 67. Qui s'est tenu l'été précédent à Montréal, qui a changé bien des choses. Et c'est un petit peu lui qui sera à l'origine de la naissance du Festival d'été de Québec. Parce que pour les jeunes de cette époque-là, l'Expo 67, c'était une révélation. Et c'est en partie ce qui va inspirer 7 jeunes artistes de Québec à mettre sur pied un festival ici. Mais aussi, c'est ce qui se passe à Paris à cette époque. Il y a des spectacles dans la rue, dans un parc, parfois dans des cours intérieurs. Puis il y a un de ces 7 jeunes-là qui a étudié à Paris. Lui, il revient ici, il s'appelle Louis Ricard, puis il dit à ses chums, il dit « Hey, faudrait faire la même chose. Ça se peut, on pourrait faire ça ici. » Alors donc, la première édition en 1968, c'est le premier festival. Maintenant, des festivals, il y a le festival d'été, mais...
Il y en a un puis un autre.
Ben c'est ça, mais c'était le premier. Au Québec, il n'y avait rien de tel qui s'était jamais fait. Alors, c'était le tout premier. Et le premier spectacle du festival d'été, première édition, se passe dans la cour intérieure du petit séminaire de Québec. C'est là qu'a eu lieu le premier spectacle. D'ailleurs, des spectacles dans la cour du petit séminaire de Québec, il y en a eu pendant une vingtaine d'années. Alors, ça a quand même...
Ouais, quand même.
C'est demeuré.
Je savais même pas qu'il y avait eu un show là.
Ben, moi, quand j'ai appris ça non plus, j'ai fait « Ah ouais, puis... »
Tu sais, aujourd'hui, ce serait genre « Hey, super idée, wow, petit spectacle intime. Ils ont trouvé un beau spot. Ah, oh, c'est là que tout a commencé. »
C'est ça, c'est là que tout a commencé. Mais il faut dire que la programmation cette année-là était très éclatée. Il y avait de la chanson, du théâtre, des arts visuels, de l'opéra, de la musique classique. En fait, le but de ces 7 jeunes-là, c'était de faire grandir chacune de ces facettes du festival pour qu'à terme, il dure tout l'été. En fait, faire plusieurs festivals d'été, un pour chacune des disciplines.
Okay.
Ben, ça s'est pas passé tout à fait comme ça, mais depuis, il faut noter que les facettes des arts présents lors de la première édition ont maintenant leur festival bien à eux. Il y a un carrefour de théâtre, il y a un festival du cinéma, etc., etc. Alors, dans le fond, ça s'est pas passé comme ils le souhaitaient, mais ça s'est passé quand même. Et le festival a fait des petits à gauche et à droite. Le budget du festival à cette époque-là, 17 000 $.
Oh boy! Quoi qu'il y a quand même 17 000 piastres en 68. Ah,
c'était quand même pas mal d'argent.
C'est pas
là.
Pire, là.
C'était surtout le ministère de la Culture du Québec et la Ville de Québec qui mettaient l'argent nécessaire sur la table. Pour vous donner un ordre d'idée, là, c'est 20 millions. Ou à peu près le budget du festival d'été maintenant. Alors, ça a pas mal changé. Et tu parlais là, du fameux laissez-passer. Dès 1968, il y avait un papillon en carton qui faisait office de macaron qui était vendu au coût de 1$. Mais il n'était pas obligatoire. Si tu l'avais pas, tu pouvais quand même aller aux différents spectacles. Faut dire qu'il y avait beaucoup d'animation dans la rue. Alors, c'était pas vraiment contrôlé. Tu passais.
Ouais, c'est ça. C'était un peu comme au carnaval à une certaine époque.
Dans ce genre-là.
Tu sais, t'avais le petit effigie de bonhomme, là, ou la chandelle, il me semble que c'était plus autre chose. Mais
c'était
t'avais la petite effigie, là.
C'est ça, le bonhomme carnaval.
Là, tu pouvais le mettre ou pas le mettre, mais tu sais, ça n'empêche pas qu'il va y avoir le défilé du carnaval pareil, puis tu vas être sur le bord de la rue, là.
Ouais, c'est ça. Alors, c'était un petit peu la même chose. Et le macaron va apparaître en 1973, la 6e édition. C'est la fleur du festival, qui est l'emblème du macaron, puis ça va durer pendant 16 ans, jusqu'à la fin des années 80. Quand même. Et la durée du festival à cette époque-là, c'était variable. La plus longue édition, d'ailleurs, ça va être battu cette année parce que j'ai compris que c'était du 1er au 25 juillet, donc c'est 25 jours.
C'est-à-dire...
En fait, il y a un volet spectacle pendant 10 jours. Puis...
C'est 8 au 18 pour les shows, là.
C'est ça.
Comme d'habitude, ça dure pas mal tout le temps, 10 jours. Là. Mais c'est parce qu'il y a d'autres activités. Je t'avoue que j'ai un peu manqué ça.
En fait, c'est écrit sur le site du 1er au 25 juillet. Il y a une exposition permanente, entre autres.
L'expo photo. Ah oui, c'est ça. Puis de réalité virtuelle. Puis,
exact.
Voilà.
Alors, en 1971, c'était la plus longue édition de l'histoire du festival d'été. 24 jours. Et la plus courte, c'était en 1979, 6 jours. Puis tu as parlé des 10 jours de tenue du festival. Bien, cette tradition-là commence en 1980, lors de la 13e édition. La fête entre dans un format de 10 jours qui est encore la norme aujourd'hui. Puis dans les années 60-70, le festival se déroule autant le jour que le soir. Sinon davantage dans certains cas. Là. Maintenant, on a évidemment, les gros spectacles sont le soir. Mais à cette époque-là, même dans les années 80, il y avait beaucoup de spectacles qui se passaient le jour. Le budget, on en a parlé un petit peu, il augmente considérablement. 1,5 million en 1987. Et cinq ans plus tard, seulement en 1992, il a plus que doublé. C'est 3,2 millions. Puis c'est à ce moment-là, le début des années 90, que les commandites privées commencent à affluer. Bell, entre autres, s'associe au festival. Ça fait une trentaine d'années qu'ils sont associés au festival, eux. Puis il y a les différentes brasseries du temps aussi. Molson, O'Keefe, Labatt.
L'excellente O'Keefe.
Ouais, qui ont toutes fait partie de l'aventure à un moment ou à un autre.
Ça existe encore, ça, de la O'Keefe?
Oui, il y en a encore d'indépanneurs.
Notre expert dépanneur de Saint-Mathieu-du-Parc.
Non, mais pour vrai, la dernière fois que je suis allé aider mes parents, genre il y a un mois, là.
Il y avait de la O'Keefe.
Il y en avait encore de la O'Keefe. T'en gardes peut-être une 24 dans la chambre froide. Puis
ouais,
c'est
d'après
tout,
moi, t'es dans le dernier bastion à tenir
Oui.
Ben, parce que la compagnie existe encore. Elle a été achetée, je pense. C'est pas les Heineken qui a acheté ça?
Mais non, c'était pas Molson O'Keefe?
Ah ouais,
boy, ça va nous prendre une petite chronique histoire de la bière.
Ouais, c'est ça, histoire. Ben, l'histoire de la bière au Québec, ça pourrait faire une très bonne chronique.
C'est possible que ce soit avec Molson.
En tout cas, peu importe, là, c'est, la compagnie existe encore, c'est juste qu'elle a été avalée par une autre.
Telle une gorgée de bière.
Et voilà. Le permis de vente d'alcool obtenu à cette époque, là, au tournant des années 90, a été un élément important pour le financement du festival et sa croissance. Parce que de la bière dans des shows, il s'en vend en petit péché. Alors, ça, c'est une entrée d'argent qui est très, très importante.
Je l'ai la réponse à notre question.
Et puis?
Carling O'Keefe was a brewing company in Canada that is not part
Molson.
Molson Corse.
Voilà.
Et voilà.
Et j'avais raison.
Ah, ben, bravo.
Bravo.
Alors, donc, on passe au macaron qui est toujours pas obligatoire. Là, on est rendu au tournant des années 90, puis il est toujours pas obligatoire pour assister au spectacle. Puis son prix a pratiquement pas changé. Je vous parlais du papillon à 1$ en 1968. Alors, 20 ans plus tard, il est à 2$. Puis le changement va s'opérer en 1995, alors que le macaron devient un prérequis pour un... Tu peux pas assister au spectacle si t'as pas le macaron. Bref, il se vend 5$ cette année-là. Et à l'époque, le directeur général du festival, c'était Michel Letourneau. Puis il a dit, on a créé un monstre. Quand on a rendu le macaron obligatoire, là, on a créé un monstre, c'est son, ses mots. Parce que le macaron fut très abordable pendant les 30-35 premières années du festival. 1$ en 68, 5$ en 1995. Alors, en 27 ans, c'est pas une très, très grosse augmentation. 1997 à 2002, il passe de 6$ à 10$.
C'est ça, moi, j'ai le souvenir d'avoir payé ça 10-15$.
Ben, c'est ça. 2002, c'est aussi l'inauguration de la prévente. C'est la première année où on fait une prévente du macaron. Là. Le macaron est 2$ de moins que le prix régulier cette année-là.
Il fallait aller faire la file à l'épicerie.
Oui, parce que là...
Je pense que c'est Couche-Tard, me trompes-tu? Je dis-tu n'importe quoi chez Couche-Tard?
C'était peut-être provisoire à l'époque.
Ouais, peut-être. Mais je sais que chez Métro, en tout cas pendant longtemps, Métro était un commanditaire et il fallait aller très, très tôt le matin faire la file chez Métro. Et il y avait aussi un deal à un moment donné, si t'étais client, si t'étais membre des caisses de jardin.
Oui. Genre, ça, c'est venu plus tard, mais je pense que c'est encore en vigueur.
Mais moi, j'ai fait la file chez Métro de bonheur avant l'ouverture, là. Pour aller acheter ma passe du festival d'été. Ben oui.
Alors donc, en 2005, le macaron atteint, le régulier, atteint 20$. La prévente est à 15$.
Ça doit être ça.
L'écart monte à 10$ lorsque le régulier se transige à 30$ en 2007.
Là, c'est parti.
Et cette différence de 10$-là entre le régulier et la prévente va demeurer. Il demeure encore aujourd'hui. Mais là, le prix du macaron s'est envolé solidement. 45$ en 2009, 65$ en 2012, 90 en 2016. L'an dernier, il était à 110 $ et il montait à 120 $ à un mois de l'événement. Parce que là, là quand tu étais à l'intérieur d'un mois de l'événement, oups, le prix montait encore un peu.
Mais c'est une corrélation avec la programmation. Là.
Ben,
on
oui,
s'entend
exactement.
Là, que si on parle du début des années 2000 à aujourd'hui, la programmation a beaucoup changé.
Ben oui, ben oui.
Ouais, ben, cette inflation coïncide avec le virage vedette internationale du c'est festival.
Ça, c'est, ça.
C'est carrément ça. Parce que l'internationalisation du festival s'est faite sur plusieurs années. 1988, c'est une année importante avec la venue de Gypsy Kings qui commençait à devenir populaire à cette époque-là et surtout de Johnny Clegg, le fameux Zoulou blanc de l'Afrique du Sud. Il faut dire qu'en 88, le spectacle avait été annulé par un orage. Ça, c'est une constante pas mal du festival d'été, les orages qui s'invitent. Mais il va revenir plus tard cet été-là à l'Agora. Pour le 25e anniversaire en 92, le festival d'été présente une centaine de spectacles avec des artistes provenant de 22 pays. Alors tranquillement, là, on voit là, qu'il y a un virage qui s'opère. Puis c'est un peu ça qui a favorisé l'avenue des grandes vedettes internationales ici. Parce qu'à partir de 2008, là, on commence vraiment à voir des très grands noms du showbiz. Évidemment, l'avenue de Paul McCartney en 2008 pour le 400e, ça a comme ouvert les portes. Là.
C'est un jalon là, ouais, quand ouais, Paul McCartney
tout
vient
à fait.
Parce que c'est à ce moment-là, tu sais, on s'entend, c'est Paul McCartney. Donc à ce moment-là, en 2008, oui, c'était le 400e, puis tout le monde était heureux, on avait quelque chose à célébrer, mais ça a démontré que le festival d'été pouvait attirer possiblement la plus grosse vedette ou l'une des plus grosses vedettes, parce qu'à un moment donné, il vient un moment où ça se quantifie plus, là, mais tu sais, l'une des plus grandes vedettes planétaire à ce moment-là.
Mais c'était pas en 2005 qu'il y a vraiment eu un virage aussi avec ZZ Top qui ont été comme les premiers internationaux à arriver en 2005.
Ben, entre autres, il y en a eu avant 2008, il y en a eu quelques-uns. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Paul McCartney, il est pas venu dans le cadre du festival d'été. Le
non,
spectacle
vrai,
était au mois d'août, quelque part vers la fin du mois d'août. Là, mais
les
quand...
plaines pouvaient accueillir. Hein.
C'est, ouais, ça. C'est ça. Exactement. C'est ça qui a aidé beaucoup. Vois-tu, là, tu parles de ZZ Top en 2005. Mais en 2008, pour le festival d'été, Van Halen était venu.
Oui.
Alors, c'était quand même pas rien. Mais à partir du moment où Paul McCartney est venu, là, les grands noms arrivent. 2009, Sting. Là, on parle du festival d'été, là. Sting vient en 2009. En 2010, c'est les Black Eyed Peas qui étaient au fait de leur popularité à ce
2010,
moment-là.
2010, c'est genre I Got a Feeling, là. 2010,
oh yeah!
C'est le monde, ils font des, pas des flash mobs, mais comment ça s'appelait? Des lip dubs.
C'est quoi ça, les lip-dubs?
Oui, 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 oui.
C'est le monde, ils se filmaient en faisant du lip-sync puis en se promenant dans leur bureau, puis
oh
en
boy.
Dansant.
Ben, en ATM, il y en avait fait un à cette époque-là, justement.
Ah, là,
tu sais, c'est une caméra en continu,
ça.
Là.
Ah,
puis
ouais,
elle se promène
ouais.
dans les couloirs, puis là, tout le monde participe à la vidéoclip un
oh,
peu.
Ouais. Une mode qui, heureusement, s'est essoufflée rapidement. Parce que, à l'époque, c'était genre l'affaire la plus extraordinaire sur la planète. Et aujourd'hui, tu regardes un lip-dub, tu as le goût de te péter à la tête sur le bureau.
Tu as l'impression que ça date de 1950.
Mais I got a feeling, je veux dire, le succès à ce moment-là. Ouais. Puis c'est à ce moment-là que les Black Eyed Peas viennent.
Exactement. 2010. Bon Jovi est venu en 2012. Puis il y a eu aussi le spectacle de Roger Waters, qui était hors festival.
Dans mon top 5 à vie.
C'est ça. Il est venu faire The Wall sur les plaines. Alors, ça n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. Puis je veux qu'on parle des plaines parce que je veux qu'on parle des scènes. Le festival d'été a installé sa scène principale sur les plaines en permanence à compter de 1999. Alors, ça fait pas si longtemps que ça. C'était la 32e édition. Mais le spectacle de clôture, lui, il était tenu depuis une dizaine d'années environ. À un moment donné, les gens du festival, là, au tournant des années 80-90, se sont dit que ça serait une bonne idée de faire le dernier spectacle là, sur les plaines pour accueillir plus de monde. Puis évidemment, le spectacle de clôture, généralement, c'est pas le plus prestigieux. C'en est un des plus importants. Alors, ils ont décidé de faire ça. Puis les gens du festival, en 99, se sont dit... C'est la scène des plaines qui va être permanente à partir de maintenant.
Es-tu en train de me dire que logiquement, on devrait faire que Québec se lève sur les plaines?
Ben, en théorie, oui.
Comme c'est plus prestigieux, c'est ça que
oui, oui, c'est un petit peu, c'est un message okay. subliminal. Que
ben, surtout peux, là, avec les manifs pour le départ d'Alexis, là, on serait mieux. Là.
Oui.
Ouais, ouais, effectivement. Non, t'as raison.
Ça y réfléchir quand même. Hein?
Alors, les scènes, le Pigeonnier, maintenant Parc de la Francophonie, a longtemps été la scène principale. Le fameux spectacle de Corbeau en 1983. Les plus vieux s'en souviendront, c'était... Ça n'avait aucun sens. Il y avait des gens perchés sur les toits des édifices autour. Il y avait une grève des policiers cette année-là. Alors, la sécurité n'était pas vraiment assurée. Ouais,
drôle d'adon.
Oui, ça avait été vraiment un joli bordel. Mais heureusement, il n'était rien arrivé de très grave. Mais c'est l'époque, là, le festival, tu pouvais passer. Il y avait un spectacle, tu pouvais passer sur le... Mettons, dans le Pigeonnier, tu pouvais traverser le Pigeonnier. T'arrêter 5 minutes.
Il n'y a pas de clôture.
Non, c'est ça, là. Puis c'est à partir du moment où il y a eu les permis de vente d'alcool qui a fallu clôturer le site, parce que là, les gens ne pouvaient pas acheter d'alcool sur le site puis partir avec leur verre de bière à gauche puis à droite dans la ville. Là. Alors, ça a changé beaucoup.
Puis là, il était dû quand même pour faire une scène... devant, en fait, la scène qu'ils ont faite devant le manège militaire qui accueille une fois et demie à peu près le pigeonnier. Là, on disait que le pigeonnier, c'était quoi, 10 000, puis là, c'est 15 000.
À peu près, oui, dans ce genre-là.
Il était dû parce que dans les dernières années, là, je dirais dans les 3, 4, 5 derniers festivals, là, il manquait une scène de cette envergure-là, là, tu sais, parce que moindrement que il y avait beaucoup de spectacles hip-hop dont on sous-estimait la popularité, parce que tu sais, c'est beaucoup les jeunes qui triplent là-dessus, ces affaires-là, puis ça joue pas vraiment à radio, puis bon, les jeunes du festival d'été, ils savaient là, que c'était des superstars qui bookaient, écoute, ils les payent, ils sont très au courant.
C'est ça, puis ils savent qu'il va y avoir du monde qui vont venir d'un peu partout pour les voir.
Tu sais, je me souviens d'un artiste, le rapper Migos, je pense qu'il s'appelle, là.
Oui.
Moi, tu sais, c'est 0-0-0 dans mes tales, je connais pas ça, puis ça m'intéresse pas vraiment, mais je m'étais promené proche du pigeonnier ce jour-là. C'était pas drôle, là. Tu sais, toute la rue derrière, je sais pas comment ça s'appelle, c'est-tu celle-là, la rue Jacques-Parizeau?
Oui.
La rue Jacques-Parizeau, là, presque jusqu'au parc de l'Amérique française, là. Noir de monde, comme s'il était cordé devant la scène. Ça circulait pas, parce que le pigeonnier était plein. Ça avait aucun sens, là. Aucun sens, là. Même si ça avait été au manège militaire, il y aurait eu trop de monde. Fait que là, le festival d'été était vraiment confronté à cette réalité-là de dire, là, c'est parce qu'on a une scène de 80 000, une de 10 000. Leur souhait, je pense, s'arrêtait à une scène de 20 000. Mais manège militaire accueille 15 000, puis ça fait la job en masse.
Tu sais, les Québécois les plus hot, tu sais, des fois, c'est dur. Un gars comme Loud, par exemple, tu sais, aujourd'hui, là, je sais pas, toi, tu connais ça plus que moi, mais sur les plaines...
Loud, je pense que t'es capable de le mettre sur les plaines.
Oui.
Mais pas il y a 5 ans.
Non, c'est ça.
Je vais te donner un autre exemple. Comment il s'appelle, là? Les Dead Obies. Là. Ils venaient de sortir un album. En même temps que Loud faisait du rap avec son chum Larry Kidd. Là. Loud, Larry et Just, OK? C'était un trio. Dead Obies était... Moi, j'étais allé les voir au pigeonnier. Puis c'était limite, là. Limite, là. Ça fait que 10 000, c'était pas tout à fait assez. 15 000, ça aurait été parfait. Mais tes aurais mis ses plaines, ça aurait été vide.
C'est ça.
Ou il aurait été en première partie d'un genre de Snoop Dogg ou d'une affaire un peu exagérée, là, tu sais. En tout cas.
Et si vous voulez parler d'un spectacle qui a marqué le festival puis qui, en principe, devait pas.
Hey, 25-2-2-6 en passant, ça, là, c'est une discussion que j'aime avoir avec vous autres, là. Les shows qui vous ont le plus marqué de l'histoire du festival d'été, envoyez-nous-les par texto au 25-2-2-6.
Alors, 2004, Berrurier Noir.
Ah oui?
Il était venu sur les plaines et juste avant le spectacle, il y avait eu un méga orage, qui s'était arrêté une fois que le spectacle avait commencé. Il y avait un artiste invité avant qui avait réchauffé la foule, peut-être un petit peu trop, parce que là, c'était un bain de boue. Les plaines étaient boueuses. Puis à un moment donné, je sais pas si c'est le chanteur qui était avant Berrurier Noir ou ce sont des membres du groupe Berrurier Noir. Il y avait, évidemment, à ce moment-là, il y avait déjà la tente VIP où les gens qui étaient protégés de la pluie pouvaient regarder le spectacle. Puis les gens qui étaient sur le terrain leur avaient lancé de la boue. Il avait fallu évacuer la tente VIP, puis ça avait été un show.
Ah, mais c'est Berrurier Noir, là, c'est genre d'espèce
c'est punk,
punk anarchiste français, là, tu sais. Ça fait que une tente VIP dans un show des Berrurier Noir, c'est impossible que ça puisse pas. Tu sais, c'est un non-sens, là. Pour eux autres, là, ça marche pas. Pour leurs fans, ça marche pas, là. Hey, du monde qui paye plus cher pour avoir une meilleure place. La boîte d'en face, puis c'est réglé. Là. Hey.
Et évidemment, à la fin du show, les plaines étaient dans un état lamentable, mais c'était pas le dernier spectacle du festival. Il y en avait un autre le lendemain soir. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rentré les 10 roulas, ils ont enlevé toute la boue, puis ils ont mis du sable et de la garnotte, comme on dit en bon québécois. Et jamais ce secteur-là a été regazonné. Quand vous passez là où les gens s'installent pour le festival d'été, là, pour regarder les spectacles, il n'y a plus de gazon là. Ils ont jamais regardé. Alors, dans le fond, le Berrurier Noir, en fait, la pluie qui a précédé le spectacle, a changé à jamais la face des plaines à ce moment-là, à cet endroit-là, parce qu'on n'a pas remis de gazon. Puis c'est logique aussi.
Mais écoute.
Parce que, écoute, ça maganait le gazon solide. Oui. Puis là, avec la boue, ça n'avait plus de bon sens.
C'est sûr qu'on. Tu sais. Tous les gens qui étaient présents au show des Foo Fighters qui a été annulé à cause de l'orage et au show d'Imagine Dragons aussi qui a été annulé à cause de l'orage, on s'en souvient, mais on va s'en souvenir longtemps. Mais moi, il y a un show en particulier où il y a vraiment eu une espèce de moment de grâce, là, et c'est 2010 Iron Maiden. OK? Parce que en 2010, quand Iron Maiden est venu, moi, Iron Maiden, c'est un groupe que j'ai écouté énormément, là. Énormément. Puis, tu sais, dans ma période, justement, plus hard rock, là, puis plus metal, j'écoutais Iron Maiden, j'aimais ça. Et il y a une chanson que j'aime particulièrement qui s'appelle The Trooper d'Iron Maiden. Puis à ce moment-là, ce soir-là, il faisait canicule. C'était, il faisait chaud, là, épouvantable. OK? Et, tu sais, quand il y a 80 000 personnes, c'est pleine, qui respire le même air des fois, puis que l'air est stagnant, puis qu'il fait chaud et humide. En même temps, t'as l'impression que c'est comme étouffant, là. Et quand cette toune-là est partie, il y a eu une espèce de moment de grâce où il s'est mis comme à avoir un vent frais puis de la pluie, là. Mais juste pour que vous compreniez comment ça peut s'être passé, là, la façon que cette toune-là est construite, là, ça a donné un truc du genre... La toune part. T'sais, vous voyez un peu comment... Ça craint, là. Et là, à ce moment-là, le vent frais se met à souffler. Puis là, il se met à mouiller, là. Les gens se mettent à sauter pas à danser, mais il se met à faire froid. C'était vraiment... Il y avait canicule, c'était insupportable de chaleur. Puis quand la toune part, il se met à faire froid puis à pleuvoir, mais... pas un orage insupportable, là. Juste pour dire que il y a un peu d'eau, ça nous rafraîchit. Puis là, après ça, on a toffé jusqu'à la fin du show, puis c'était tellement énergisant, là. C'était, je vais m'en souvenir toute ma vie. Vraiment, de ce moment-là, je vais m'en souvenir tout le temps, tu sais, parce que le timing avait pas de sens, là, tu sais. Ça avait vraiment aucun sens.
Fait que Iron Maiden était de connivence avec Dame Nature.
Oui. Puis depuis ce jour-là, rien que pour l'anecdote, c'est le chant. À toutes les fois que j'ai pris l'avion dans ma vie, à toutes les fois, je mets tout le temps ce tune-là dans mes oreilles au moment où ça décolle. Mais ça a tellement... C'est, l'intro de ce tune-là, c'est un avion qui décolle, là. Tu sais, t'avances, puis tu sais, quand t'es un peu pogné dans ton banc, parce que ça tord quand même un avion, puis là, à un moment donné, ça lève, là. C'est tout le temps le début de ce tune-là que j'écoute. Ouais, c'est ça. En tout cas,
bref. Du souvenir du festival d'été, il y en a un puis un autre.
Ben oui.
J'y vais rapidement sur les scènes, parce qu'il y en a quelques-unes qui ont été oubliées. L'hôtel de ville, ça a été ajouté, ça, à peu près, un petit peu avant celle de Place Diouville. Parce que Place Diouville, il n'y avait pas de spectacle là. Puis au tournant des années 80-90, il y a eu des spectacles à Place Diouville.
L'hôtel de ville?
L'hôtel de ville, il y a une scène à l'hôtel de ville.
Ah ouais?
Mais là,
c'est côté, là, où est-ce qu'il y a les jardins?
Ouais, c'est ça, à cet endroit-là.
Dans le bureau à Régis.
Dans le bureau à Reg, oui.
C'est ça, la tente VIP est dans le bureau de M. Labeau. Il y a une scène là. Il y a eu aussi une scène face à l'Assemblée nationale adossée sur les remparts. Quand vous êtes la fontaine de Tourny, là, à gauche, ben, tout dépendant de quel côté vous arrivez. Mais d'un côté, il y a l'Assemblée nationale. L'autre côté, il y a les remparts. Mais il y avait une scène qui était adossée là. Il y a eu des spectacles sur la terrasse du Frein dans les années 70. Ça n'a pas duré, mais il y en a eu là. Puis, évidemment, la cour intérieure du séminaire de Québec, là, je vous le disais, le premier spectacle du festival d'été a eu lieu là. Puis, il y en a eu pendant une vingtaine d'années, même un peu plus, là, jusqu'au tournant des années 80-90.
Hey, je me replonge à des souvenirs qui me font triper. Merci, François.
Le plaisir
hyper
pour moi.
Hyper intéressant. Le Sieur de Terrien, mesdames, messieurs, qui nous a replongé dans 54 ans d'histoire du Festival d'été de Québec, qui va se tenir du 8 au 18 juillet cet été. Ça me permet de vous dire, si vous êtes déçus que tous les billets soient partis hyper rapidement, ce qui était prévisible parce qu'il y a 250 places, 250 tickets par show, c'était certain que ça allait partir bien vite. Je sais que les gens du festival d'été espèrent encore que l'assouplissement des mesures sanitaires permette peut-être de recevoir 500 personnes plutôt que 250. Le cas échéant, il pourrait y avoir, je parle au conditionnel parce que c'est pas fait, là, il pourrait y avoir de nouveaux billets qui seraient libérés puis qui seraient mis en vente d'ici au début du festival. Alors, ben, surveillez ça. Puis si vous tenez absolument à aller au show, ben, c'est ça. Guettez ça bien comme il faut. Ça pourrait se produire.
Parlant de déception.
Qu'est-ce qu'il y a? Parlant de déception, tu t'en vas?
Non, bah, oui, il y a ça.
C'est une déception pour moi.
Ça, c'est pour toi. Mais au Grand Prix...
Ah, parce que clairement, c'est pas une déception pour toi.
Non, ça en est une aussi. Oui. Mais disons que c'est une déception qui vient de mon choix aussi. Non, Grand Prix d'Azerbaïdjan, là, en F1, là, Lance Stroll partait en fond de grille. OK, parce qu'hier, il a fait un accident pendant les qualifs. Il partait en fond de grille, il était 19e. Tantôt, il avait réussi à remonter, il était rendu 4e. C'est impressionnant, là. Puis il a pogné le mur, fait un accident, sa course est finie.
C'est la faute des farteurs.
Ça doit être eux autres.
Il y avait un mauvais...
Les poseurs de pneus,
il y avait un mauvais fartage.
Oui, ça doit être ça.
9h04. Bougez pas, on vient.